Alors, heureusement, ce dimanche, on a retrouvé la voix. On rend grâce à Dieu. Alors, on va continuer notre petite série sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans le 3e commandement, le respecter le nom de Dieu. Tu ne prononceras pas mon nom de manière abusive, dit cette version. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, dit notre version habituelle, la version Second Colombe, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Nous trouvons ça en Exode chapitre 20 pour les 10 commandements, et donc ce verset, le verset 7. Alors il faut d'abord dire en introduction que nous sommes tous concernés par le 3e commandement. J'ai lu un livre il y a très très longtemps, où on faisait le commentaire de tous les commandements, sauf le 3e. Parce que bon, sans doute l'auteur trouvait qu'il n'y avait pas assez à dire. C'était très bizarre. Non, il y a beaucoup de choses à dire sur ce 3e commandement, et on est tous concernés. Mais on peut déjà dire une première définition. On va affiner la définition dans la méditation. Mais déjà, on peut donner une première définition. De prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Prendre le nom de Dieu en vain, on va dire, c'est prononcer son nom sans vrai motif, sans y penser vraiment. Prononcer son nom sans vrai motif, sans y penser vraiment. On dit « mon Dieu hein », on dit « bon Dieu » aussi, des fois, pour exprimer son étonnement. Alors, on est souvent étonné. Alors, il y en a qui disent « mon Dieu », souvent, hein. Alors, nous, on dit peut-être aussi souvent « Dieu merci hein, »,« Dieu merci » ou « gloire à Dieu hein, » ou tout ce qui va avec. Hein, je ne vais pas rallonger la sauce. Mais on va dire que ce sont des formules qui avaient du sens au départ, certainement, mais elles n'en ont plus. En disant cela, donc, on invoque le nom de Dieu, mais sans y penser, sans plus y penser. Hein. Et ça devient comme une respiration. Hein. Et donc, c'est comme si cette invocation était une simple ponctuation dans nos phrases. Il y a des gens qui disent « ok » tout le temps. Eh bien, il y a des gens qui disent « mon Dieu » tout le temps. Alors, c'est une façon de ne pas honorer Dieu. C'est une façon de prendre le nom de Dieu en vain. C'est en le prononçant donc sans motif, sans vrai motif, sans y penser vraiment. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. L'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Donc, nous avons ici une exhortation à respecter le nom de Dieu. Mais la première chose que nous voulons voir, merci, voilà, c'est quoi le nom de Dieu ? Dans la Bible, le nom représente bien plus qu'une appellation. Le nom, c'est la personne, c'est le statut de la personne. Et donc, respecter le nom de la personne, c'est respecter la personne et son statut. Alors, qui est Dieu que nous devrions respecter ? Qui est Dieu à qui nous devions ce respect, hein, dû à son nom ? Alors, tout d'abord, Dieu se présente comme le Créateur et ensuite comme le Rédempteur dans la Bible. Dieu est le Créateur du monde. Et donc, en méditant sur la gloire de Dieu, dans la création, par exemple, David, au psaume 8, s'écrit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Que ton nom est magnifique. En jetant un regard vers le ciel étoilé, l'homme qui est un être noble et digne se sent quand même petit, hein, se sent si petit, hein, si fragile, hein, et de passage, hein, vraiment sur cette terre. Comparé à la majesté de Dieu qui se reflète dans la majesté de la création et du ciel. Et majesté dont la magnificence se répand partout dans l'univers que Dieu a fait. Que ton nom est magnifique. Et donc, qui est Dieu pour que nous devions ce respect à son nom ? Eh bien, il est le Créateur, mais il est aussi le Rédempteur. Et quand dans la nuée, Dieu s'est approché de Moïse, il s'est révélé en Deutéronome 32 comme Dieu compatissant et qui fait grâce. Le salut de Dieu est inclus dans son nom. Dieu est rédempteur, il est sauveur. Psaume 106, un grand psaume qui parle de la délivrance de l'Égypte. Verset 8, il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. On pourrait dire pour faire connaître son amour, sa bienveillance, sa sainteté aussi. Et donc, si on vient au nom spécifique de Dieu dans l'Ancien Testament, on a Elohim qui nous parle plutôt de l'aspect créationnel, la plénitude, la totalité de la puissance de Dieu à l'œuvre. Et puis, le mot qu'on traduit dans nos versions par l'Éternel, Adonai, Yahweh, est celui qui a toujours été avec nous, on va dire, le fidèle, celui qui va sauver son peuple. Et donc, le troisième commandement n'interdit pas de prononcer le nom de Dieu, sous quelque forme que ce soit. Il commande de le respecter. Et on pourrait dire plus positivement, nous avons l'insigne honneur de pouvoir dire le nom de Dieu et de pouvoir rendre gloire à son nom. Donc soyons en dignes et prononçons-le avec honneur. Alors dans le Nouveau Testament, eh bien, le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom par lequel le Seigneur se révèle, c'est Jésus. Et nous sommes appelés dans tout le Nouveau Testament à honorer le nom de Jésus. Alors c'est nécessaire parce qu'il est la deuxième personne de la Trinité. Le Fils qui vient révéler la gloire du Père, le Fils qui est un avec le Père. Honneur et gloire lui sont également dus comme au Père et comme à l'Esprit. Mais honorer le nom de Jésus est nécessaire aussi parce qu'il sait, on l'a dit, et David l'a dit dans la première partie, parce que Jésus s'est volontairement donné pour nous sauver. Il s'est humilié jusqu'à la mort ignominieuse, la mort de la croix, pour nous sauver. Et c'est Philippiens 2, 9 à 11. Je ne vais pas le relire. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, dans la même idée, il est dit que seul l'agneau de Dieu, le Christ, qui est l'agneau de Dieu, seul l'agneau est digne d'ouvrir les sceaux de l'histoire, parce que lui seul a été immolé pour nos péchés. Et à lui seul, donc, dit le même chapitre, à lui seul reviennent la louange, la gloire, l'honneur et le pouvoir au siècle des siècles. Et bien sûr, il y a Acte 4, 12, un des versets préférés des chrétiens, il est dit que le salut ne se trouve en aucun autre que Jésus, donc. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous portons aujourd'hui le nom de chrétien. Donc nous portons ce nom du Christ, nous, étant donné que nous faisons partie de la famille du Christ. Nous portons ce nom, donc il n'est pas possible de porter ce nom et de faire n'importe quoi à celui qui nous a donné ce nom en le déshonorant d'une façon ou d'une autre. Alors viennent maintenant quelques questions par rapport au serment. Et donc dans les temps bibliques, prendre en vain le nom de Dieu pouvait prendre différentes formes. Par exemple, donner du poids à des paroles qui pouvaient être sinon vides d'engagement. Et donc on éprouvait le besoin de faire des serments pour appuyer une parole, pour donner du poids, pour lui donner de la solennité. Mais il y avait des abus, forcément. Il y a toujours des abus. Il y a des gens qui faisaient des faux serments. Puis il y a des gens qui faisaient des serments inutiles. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y a déjà des commandements qui essaient de rectifier le tir. Lévitique 19, 12, par exemple. Vous ne jurerez pas faussement, il n'est pas dit de ne pas jurer, mais vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, et je suis l'Éternel ton Dieu. Donc vous ne jurerez pas faussement. Mais les serments ne sont pas mauvais en soi, puisque Dieu lui-même fait des serments dans la Bible. Et heureusement pour nous, il se donne la peine pour se mettre à notre niveau, et on en a besoin, et il se donne la peine d'appuyer ses paroles par un serment, pour dire, voilà, c'est vraiment vrai de chez vrai. Vous pouvez vraiment faire confiance en ce que je vais dire. Psaume 110, 4. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Et on pourrait en citer d'autres. Dieu confirme son alliance en se donnant la peine de prêter serment. Et dans le serment sur la montagne, on vient au Nouveau Testament, Jésus s'est élevé aussi contre les abus. Et 200 ans, donc on faisait également, même les gens les plus pieux parmi les pharisiens, faisaient toutes sortes de serments superficiels. On banalisait le serment, et puis aussi on le détournait pour tromper, sans en avoir l'air. Et donc Jésus ordonne que votre parole soit oui, oui, et non, non. Et ce qu'on ajoute vient du malin. C'est une occasion pour le malin de nous tenter, etc. Matthieu 5, 37. Mais l'idée d'interdire tout serment est loin de sa pensée, forcément. Puisque Jésus n'a pas toujours dit oui, oui, ni non, non. Jésus lui-même a prononcé un serment pour appuyer la vérité. Souvent, par exemple, il a dit, pour souligner une parole importante, pour donner plus de solennité, il a dit, en vérité, je vous le dis. Amen, amen, lego humine. Et donc, c'était pour annoncer quelque chose d'important, pour le solenniser, pour vraiment appuyer ce qu'il allait dire. Et les apôtres ont pris Dieu à témoin. Les apôtres Paul, par exemple, a pris Dieu à témoin à plusieurs reprises pour vraiment appuyer quelque chose auprès des chrétiens auxquels il écrivait. En 2 Corinthiens 1, 23, Paul dit « J'en prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe. J'en prends Dieu à témoin sur mon âme. » C'est fort comme formule. C'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe. C'est parce qu'il y a des gens qui colportaient des faux bruits. Il n'est pas allé à Corinthe pour ci, il n'est pas allé à Corinthe pour ça. Alors, pour faire taire toute discussion, voilà, il se met devant Dieu et dit, je suis allé à Corinthe pour une seule raison, pour vous ménager. Et puis, en Philippiens 1, 8, il dit la même chose. Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse du Christ. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? De nous-mêmes, de soi-même, dans la sphère privée, dans la vie de tous les jours, on est appelé à parler aux gens, eh bien, le chrétien n'éprouve pas le besoin de rajouter à sa parole quelque chose. Il n'éprouve pas le besoin de faire des serments tout le temps. Il se contente de dire la vérité, de dire oui et de dire non. Ça doit suffire. Mais nous nous trouvons dans des situations dans la vie publique, où prêter serment est obligatoire dans le monde. Et en règle normale, ce genre de serment ne suscite aucun compromis avec la parole de Dieu. On doit prêter serment devant les tribunaux. On ne le fait pas de nous-mêmes. Nous, oui, ça suffit, mais on nous demande de jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité. On le fait. Dans le cadre du mariage, se marier, c'est un serment. Promettez-vous de... voilà. D'honorer votre et de respecter votre femme tant que la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il y a des engagements dans l'armée, etc., qui nécessitent des formes de serment. Les contrats aussi sont des formes de serment. Vous avez tous fait à la banque, lu et approuvé. Ça ajoutait oui à quelque chose. C'est pas que oui là. Lu et approuvé, ça renforce la valeur de l'engagement. Donc en règle normale, ce genre de serment ne suscite aucun compromis avec la parole de Dieu. De plus, il existe des occasions solennelles, même dans l'Église, où des promesses solennelles sont requises. Par exemple, le baptême. Lors d'un baptême, la personne convertie promet devant Dieu et en public, devant témoins, de suivre le Christ, avec l'aide que Dieu va lui donner, de suivre l'Évangile, de se soumettre aussi, ensuite, quand elle va rentrer dans l'Église, à la discipline de l'Église. Tout ça se fait publiquement, et c'est une bonne chose pour nous. Alors, il y a des questions qui se posent. Oh là là, est-il possible de revenir sur une promesse lorsque celle-ci ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu ? On a fait une promesse, et... ben oui, franchement, oui. Il est possible de revenir sur une promesse si celle-ci, après réflexion, ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. L'exemple le plus flagrant, c'est Jephté. En Juge 11, il avait promis de sacrifier la première personne qui viendrait au devant de lui à son retour de la grande victoire. Qu'est-ce qui lui a pris dans la tête? C'est un vœu complètement illégitime. Il n'y a jamais eu de sacrifice humain dans l'Ancien Testament. Dieu ne peut pas, ne demande pas ça et ça ne peut pas lui plaire. C'est basé sur rien. Donc il aurait dû y renoncer, mais il n'a pas trouvé le moyen d'y renoncer, ni sa fille non plus. Et puis les réformateurs, au moment de la réforme, il y a des prêtres, il y a des religieuses qui venaient à eux, et puis ils avaient des problèmes de conscience, parce qu'ils avaient promis de rester célibataires. Et Luther, comme Calvin en dit, ce sont des vœux qui ne sont pas dans la Bible, donc vous n'êtes pas liés. Vous n'êtes pas liés, vous avez plus de lumière aujourd'hui. Donc, les promesses que vous avez faites ne s'accordent pas avec la volonté de Dieu. Donc, votre conscience est libre de prendre un autre engagement. Alors, il y a aussi une autre question. Un contrat signé entre un chrétien et un non-chrétien est-il valide? Il y a toujours des gens qui disent « Ah, c'est avec un non-chrétien que j'ai fait ce contrat, donc je peux le casser. » Non, c'est valide. Tous croyants ou non, nous vivons dans la même société, tous nous acceptons les mêmes structures administratives ou commerciales, etc. Nous sommes soumis aux mêmes lois. Alors, autre question, si j'ai fait un serment qui me cause du tort, puis-je me rétracter? C'est un peu pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Alors là, nous avons le psaume 15, verset 9, verset 4, qui m'a toujours énormément marqué, qui parle du chrétien qui s'approche de Dieu dans de bonnes dispositions. Et une de ses bonnes dispositions, c'est que s'il fait un serment qui lui cause du tort, s'il fait un serment à son préjudice, dit une autre version, il ne change pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire, parfois, nous prenons un engagement qui lèse nos intérêts matériels. Beaucoup de gens refusent tout simplement alors de faire ce qu'ils ont promis de faire. Certains vont jusqu'à nier avoir pris cet engagement. Pour ne pas paraître infidèles à leurs paroles. Bon. Et d'autres argumentent sur le sens de leurs paroles. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Et ils essaient de donner à leurs paroles un autre sens. On est tous très habiles pour faire ce genre de choses. Et donc, même si ces attitudes sont courantes, elles ne se justifient pas. Nous sommes appelés à respecter la parole donnée. Nous ne devons pas nous laisser aller non plus à parler à tort et à travers. Et nous devons apprendre à dire des choses sensées et à les respecter ensuite. Alors, autre question, là je serai beaucoup plus bref. S'il arrivait qu'une loi oblige à commettre des actes contre la conscience humaine, suis-je obligé de me soumettre à cette loi? Pourtant, en principe, en tant que chrétien, nous sommes liés à l'obéissance aux autorités. Alors, je crois qu'il faut vraiment répondre, qu'il faut refuser. Nous sommes appelés à refuser d'appliquer certaines lois. D'ailleurs, l'objection de conscience existe. Dans l'armée, depuis 1966, je crois, dans l'application de la loi sur l'IVG en 1974, etc. Même si tout ça est un peu bouleversé parfois par certains courants de pensée, c'est des choses qui existent dans la loi. Alors, ayant dit tout ça, il faut apporter un autre regard encore. Honorer le nom de Dieu implique plus que de s'abstenir de blasphémer, ou d'utiliser son nom pour mentir, ou de l'utiliser pour tromper. C'est faire des choses positives. Et donc, chaque fois que Dieu, dans la Bible, interdit une chose, c'est pour inciter à faire positivement beaucoup d'autres choses. Un panel très large de choses. Alors, je vais en citer quelques-unes. Honorer le nom de Dieu, c'est donc veiller à ce que la réputation de Dieu ne soit pas atteinte. Ça fait partie donc des obligations du troisième commandement. Alors, par exemple, honorer le nom de Dieu, ça implique d'être reconnaissant. Ben oui, on n'y pense pas. Les 10 lépreux, vous vous souvenez des 10 lépreux dans l'évangile de Luc? Il y en a 10 qui sont guéris. Il y en a 9 qui partent, poudre d'escampette, on ne les voit plus, sans donner d'adresse, sans donner de téléphone portable, rien. Et puis, il y en a un qui reste. le Samaritain qui revient, il a loué le Seigneur pour sa grâce, il a honoré le nom de Jésus. Donc, il a honoré le nom de Dieu en revenant, en rendant grâce publiquement pour ce Dieu qui l'avait guéri à sa demande. Hein? Donc, être reconnaissant et apporter à Dieu une reconnaissance publique aussi, parfois, c'est honorer le nom de Dieu. Et dans ma vie spirituelle, honorer le nom de Dieu, c'est un certain nombre de choses très pratiques. Hein. C'est par exemple lire sa Bible dans un esprit de respect, d'attention, hein, de méditation qui exige le nom de Dieu, le nom du Christ qui est révélé dans les pages du Saint-Livre. Et parfois nous ne le faisons pas, nous prenons un truc comme ça au hasard, sans préparation. Honorer le nom de Dieu dans la vie spirituelle, c'est être attentif et recueilli au culte. Hein? Eh oui, hein? Il y a parfois une nonchalance, une distraction, un esprit de distraction qui s'empare de nous et ce sont qui nous conduisent à une profanation du nom de Dieu. Hein? Être systématiquement en retard au culte, est-ce respecter le nom majestueux du Seigneur? Hein? On ne le ferait pas pour notre patron. Hein? Ah non, 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 non. On aurait trop... Et puis, donc, il y a honorer le nom de Dieu, ça a des implications dans notre vie de travail. En 1 Timothée 6, 1, Paul dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, on va dire, même si c'est un peu difficile à faire la transplantation aujourd'hui, que tous ceux qui sont employés estiment leur petit patron comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine de l'Évangile ne soient pas calomniés. Donc voilà, on sait bien que par notre comportement, sur notre lieu de travail, dans notre vie de famille, dans les choses quotidiennes, eh bien, on peut des fois calomnier indirectement le nom de Dieu. De toute façon, Paul, il y va largement, il dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Voilà, tout est dit. Hein. Mais on peut dire aussi que honorer le nom de Dieu, c'est pas seulement dans ma vie spirituelle, dans mon comportement, hein, au travail et dans la famille, c'est aussi dans mon comportement, nous devons veiller au comportement de l'Église. Hein. Honorer le nom de Dieu, c'est veiller dans notre comportement, au comportement de l'Église. Dieu est honoré, par exemple, dans notre vie d'Église, si ensemble, nous professons la vérité dans l'amour. C'est ce que Paul dit en Philippiens 4, on l'avait vu il n'y a pas longtemps. Une église qui professe que la vérité ou que l'amour, hein, elle n'honore pas le Dieu qui est vérité et amour. Hein. Et donc Dieu n'est pas honoré, hein, dans ces cas-là. Hein. Et Paul dit, le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les païens, hein, ainsi qu'il est écrit Romains 2, 24. Et honorer le nom de Dieu, c'est veiller aussi à l'enseignement de l'Église. Alors, il y a toutes sortes de faux enseignements. Et voilà, on peut en citer un au moins. C'est si on donne à la vie spirituelle ou au salut une dimension trop humaine, si on laisse croire qu'on peut se sauver par ses œuvres, par ses propres efforts, que le péché n'existe pas vraiment, qu'on n'a pas besoin du sacrifice du Christ pour être sauvé, on n'a pas besoin d'être pardonné, réconcilié, vraiment sanctifié, transformé par le Saint-Esprit, à être passé par la nouvelle naissance, eh bien on ne va pas honorer ni l'amour de Dieu qui a donné son Fils sur la croix pour nos péchés, ni sa sainteté, ni sa puissance à l'œuvre dans la transformation d'une vie, etc. Donc, et puis, une autre forme de blasphème indirect, particulièrement grave, consiste à repousser l'action de Dieu dans nos vies. Hein. Repousser l'œuvre de la grâce de Dieu par l'Esprit Saint. Hein. Refuser de croire, on va dire, à l'amour de Dieu à mon égard. Hein. D'une certaine façon, c'est mettre en cause la personne de Dieu. Dire non, hein, c'est pas possible que tu m'aimes. Hein. Donc, c'est mettre en cause ce que Dieu est fondamentalement. Parce que Dieu est d'amour. Alors, il y a une autre chose auquel on ne pense pas. Honorer le nom de Dieu, c'est témoigner. C'est veiller à défendre la foi chaque fois qu'une occasion est à notre portée, en tout cas. c'est défendre la foi au Dieu vivant, c'est témoigner. Et il y a toujours ce verset qui me marque beaucoup, Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque, moi j'aime bien l'expliquer au moment des baptêmes, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, il y a des abus de pouvoir. C'est aussi un autre chapitre. Souvent, utiliser le nom de Dieu a conduit à des abus de pouvoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il suffit de penser à toutes les religions qui, de temps en temps, ont fait la guerre au nom de Dieu, pour être gentil. Alors, bien sûr, on pense à l'idée islamique du djihad, qui est celle d'une guerre sainte destinée à conquérir, à soumettre les peuples sous la loi musulmane. Mais les croisades, dont l'intention était simplement au départ de reprendre ce qui avait été perdu suite au djihad, eh bien, on fait subir par la suite, on dégénéré en représailles au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Et l'Église chrétienne a fourni au cours de l'histoire des églises, de l'Église, des exemples de guerre, plus ou moins justifiées, se référant en tout cas à Dieu comme des missions divines. Et donc, on sait bien qu'aujourd'hui encore, ceux qui persécutent l'Église le font souvent au nom de Dieu aussi. Et l'apôtre Paul en était l'exemple avant sa conversion. Et il a fait preuve d'un excès de zèle, il dit lui-même, en attaquant les chrétiens et en les emmenant devant les tribunaux religieux pour être condamnés au nom d'une interprétation du judaïsme qu'il va dénoncer ensuite. Donc c'est au nom d'une interprétation de la loi de Moïse qu'il commettait ces crimes. Alors on peut dire aussi qu'au cours de l'histoire de l'Église, des chrétiens à l'intérieur de l'Église, il y a eu ce genre d'abus. Ce genre d'excès de zèle peut exister lorsqu'on applique une interprétation de la foi chrétienne et comme une loi venue de Dieu. Et on applique une discipline trop sévère sur des points mineurs. Il y a des églises où on est excommunié si on boit un tout petit peu de vin, sans excès. Ça existait. Il y a beaucoup d'autres illustrations, je ne donnerai que celle-là. Mais il en va de même d'une erreur doctrinale. Il y a des églises qui mettent la foi en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ils mettent d'autres règlements, d'autres articles de foi au même niveau que les articles du credo, on va dire. Et si une erreur doctrinale est dénoncée à tort, donc ça aussi, ça déshonore le nom de Dieu. Il arrive en effet que des chrétiens accordent une importance fondamentale à des questions d'importance seconde. Par exemple, la façon exacte dont se fera le déroulement du retour du Christ. En tant que chrétien évangélique soumis à la même Bible, on peut avoir des interprétations différentes et on doit se respecter les uns les autres. C'est pareil pour la longueur des jours de la Genèse. Et donc, on ne doit pas ériger une interprétation comme si c'était la vérité de Dieu au même titre que les autres articles, que les articles du credo concernant ce qu'est Dieu, l'œuvre du Christ. Donc, un abus assez courant dans la communauté chrétienne consiste aussi à justifier un comportement en affirmant « Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Ou Dieu m'a inspiré cela. C'est pas dans la Bible, mais Dieu m'a inspiré ça. Alors voilà. Dieu a révélé dans les Saintes Écritures tout ce qu'il faut pour que nous puissions venir à Dieu et édifier notre vie chrétienne. Et c'est en retournant aux Écritures, parole inspirée de Dieu, que nous pouvons connaître ce que Dieu a dit. Et voilà une référence, un roc inébranlable pour notre connaissance. Alors, je termine par l'occultisme. Là aussi, c'est une utilisation de noms, de divinités, pour des fins personnelles. On en a parlé les dernières fois déjà. L'occultisme, la magie, la sorcellerie, l'astrologie sont autant de pratiques interdites aux chrétiens. On trouve dans la Bible des textes précis contre la divination, la magie, qui confirment les choix faits par Dieu pour révéler son nom. Par exemple, Deutéronome 18, 9 à 22, c'est un texte qui établit un fort contraste entre ceux qui s'adonnent à l'occultisme et le prophète qui va venir de la part de Dieu, plus grand que Moïse, à qui le Seigneur dira tout ce qu'Israël a besoin de savoir. Pour nous, c'est le Messie. Et donc, si nous avons le Messie, nous n'avons pas besoin de toutes ces magies, hein, de toutes ces pratiques qui finalement, hein, mettent en lumière l'insatisfaction des hommes face à la personne et à l'œuvre du Christ. C'est parce qu'ils ne trouvent pas d'une satisfaction profonde dans la personne et l'œuvre du Christ qu'ils vont chercher ailleurs. Hein. Ils déshonorent le Christ en pensant qu'il n'est pas à la hauteur, ils vont chercher un plus, ils vont chercher un complément dans des pratiques autres, hein, des pratiques divinatoires, pour être bref. Hein. Donc là aussi, pratiquement, c'est bien aussi, hein, déshonorer, prendre le nom de Dieu en vain, déshonorer le Seigneur. Or, comme l'affirme fortement l'Épître aux Hébreux, Jésus est paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hein. Hébreux 9, 26, 28. Hein. Ensuite vient le jugement dernier et l'accueil, hein, de tous les croyants. Hein. Donc le nom de Jésus, le Fils de Dieu, est notre seule espérance. C'est vers lui que nous voulons nous tourner. Et l'évangile qui lui rend témoignage est le mystère dévoilé, hein, aux chrétiens. Hein. Et donc nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Nous avons simplement à le mettre en pratique et à l'annoncer aux hommes. Alors un dernier point, vraiment dernier, c'est la suite, la fin du commandement. Hein. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent, ne tiendra pas pour impuni celui qui aura pris son nom en vain. Alors on peut voir là une condamnation définitive. J'ai pris un jour le nom de Dieu en vain, suis-je puni pour toujours ? Hein ? Alors, comme dans toute la Bible, il faut distinguer entre ce qui est péché d'un instant et ce qui est une habitude de péché dans laquelle on s'installe. L'apôtre Jean, dans la première épître, fait bien la différence. Hein. Le chrétien ne pêche pas, hein, c'est-à-dire dans le sens où il ne pratique pas le péché. Hein. Le péché, lui, s'il pêche, bien sûr, occasionnellement, mais il ne peut pas s'installer dans ce péché. Il en a horreur, il veut s'en repentir, il est mal à l'aise, etc. Hein. On ne peut pas s'installer dans le péché en tant que chrétien comme si ça ne nous faisait ni chaud ni froid. Ce n'est pas possible, hein, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et qui est le Saint-Esprit. Et donc la Bible dit qu'il y a, hein, il y a toujours un pardon pour celui qui se repent, hein, y compris dans l'Ancien Testament, hein, où un sacrifice était réclamé à quiconque se repentait d'avoir prêté serment en péchant, en mentant, hein, par exemple en Lévitique 5, 21 et suivant. Et donc encore aujourd'hui, le désir de Dieu et de pardonner au coupable qui se repent. À tout péché, miséricorde. Voilà l'évangile. Et donc, miséricorde à cause du sacrifice du Christ, à notre place sur le mont du Calvaire. Et en nous donnant les 10 commandements, donc Dieu nous révèle sa volonté, qui ne change pas, c'est vrai. Mais il ne souhaite toutefois pas nous condamner, hein, nous enfermer dans le péché, mais nous amener à susciter en nous le désir, hein, de nous repentir, de lui être agréable et de nous réfugier, hein, à l'ombre de son amour, de son pardon, de sa grâce inlassable. Parce que nous en aurons, hein, toujours besoin de sa grâce, hein, face à nos péchés, à nos insuffisances, tant que nous serons sur terre, nous n'aurons toujours qu'un début de sanctification. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. Alors concluons. On va conclure comme le début. On va conclure plutôt comme le début de la première partie, hein, en rappelant la prière du Jésus. Hein, que ton nom soit sanctifié. Il vaut la peine de s'arrêter sur la prière que Jésus inspire à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà le troisième commandement exprimé de façon positive. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, que ton nom soit sanctifié. À la fois le commandement de façon positive et la prière qui correspond. Ça veut dire donc aussi que sanctifier le nom de Dieu, notre Père, devient la préoccupation majeure du disciple de Jésus dans la Nouvelle Alliance. Que ton nom soit sanctifié. Voilà le cri du cœur, voilà la prière de tous les instants, hein, quotidiennes du chrétien. Alors je conclue en disant que sanctifier le nom du Seigneur, en plus de tout ce qu'on a déjà dit, c'est, on le sanctifie, sanctifions donc le nom du Seigneur et nous le sanctifions d'abord par nos œuvres, hein, nos œuvres produites de notre foi, de notre communion avec Dieu, hein, de la vie de l'Esprit en nous. Nous sanctifions le nom du Seigneur par la prière, une prière attentive, une prière concentrée, une prière fervente aussi. Nous sanctifions le nom du Seigneur par des cultes dignes du Seigneur, à qui nous le rendons, hein, nous rendons ce culte. Nous sanctifions le nom du Seigneur par l'utilisation consciencieuse de tous les moyens de grâce qu'il met à notre disposition. Aucun n'est superflu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, plus que nous ne croyons. Nous sanctifions le nom du Seigneur en admirant sans cesse tout ce qu'il est dans sa parole et dans ses œuvres et dans sa création. Et puis, nous sanctifions le nom du Seigneur en rendant un véritable témoignage, un véritable et sobre témoignage de ce qu'il est, de ce qu'il est, de sa personne. Telle est donc seulement la manière dont le nom de Dieu ne sera pas pris en vain. Amen.